Et on en parle avec nos spécialistes Christian Flèche, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau avec Christophe Joseph. Vous êtes expert en armes et munitions, diplômé en balistique et vous êtes donc amené à collaborer avec la justice ou avec les forces de l'ordre sur ce genre d'affaires. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et on est toujours avec Candice Mahou du service culture de BFM TV. Rebonsoir Candice. Et avec Laurent Valdiguier. Bien évidemment, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Laurent, il a fait le récit là d'une soirée qui a dégénéré, tout simplement.
Oui, d'une journée qui ne cesse de dégénérer, puisque les deux jours précédents s'étaient bien passés. Soraya, elle revient de Suisse le jeudi, on est donc le dimanche, et le procureur dit qu'elle raconte qu'elle a senti assez vite dans la journée qu'il était excité et qu'il avait envie de boire. Il boit beaucoup à l'heure du déjeuner à Arcachon avec un couple d'amis. Il continue de boire au repas de fin de journée qui a lieu à 16h30 à peu près. Elle reste au camp quand lui va à Biscarrosse au casino. Et puis ensuite, quand il rentre, il est 2h et quelques du matin. Il réveille une première fois sa petite fille de 3 ans. On sent qu'il y a une première dispute avec le couple, du coup, puisqu'elle lui demande d'aller de sortir. Il va écouter de la musique, des cantiques très fort dans sa Porsche devant la caravane. Elle lui envoie des SMS un peu rageurs. Le procureur ne les a pas détaillés pour lui dire
de baisser le son.
Il conduit, il s'en va. Alors là, cette fois-ci, elle comprend que dans l'état dans lequel il est, il vaut mieux pas qu'il conduise. Elle appelle son père. Il est 2h50 du matin. Elle demande à son père de dire à son fils de ne pas prendre le volant. Donc son père l'appelle pour lui demander. Il promet à son père de rentrer se coucher. Vous voyez, ça, c'est une cascade quand même d'événements. Et puis ensuite, il réveille sa fille qui a été rendormie. Et là, effectivement, on est au bout de l'escalade puisqu'elle lui dit qu'elle va partir. L'un ou l'autre doit partir. Et ça va enclencher la suite.
La suite qu'on connaît. Christophe Joseph, on peut dire que Kenji Mirac est un miraculé. Il a fait le détail ce soir, le procureur. La balle a touché la rate, le poumon, le diaphragme, mais n'a pas touché les os. Qu'il ait survécu à une balle de ce type de pistolet, de ce type d'arme, c'est une chance inouïe.
Alors, balistiquement, à partir du moment où la munition, la balle ne va pas toucher d'organe vital, si la victime est prise en charge rapidement, il faut savoir que dans 68% des cas, les victimes par balle présentent un choc hémorragique. Donc le délai d'intervention des secours est essentiel pour la survie de la victime. Le risque de décès provient surtout si la balle va toucher un organe vital, comme le cœur, comme le cerveau, où là, on risque d'avoir un effet on-off, la victime décède sur le coup. Donc, il a eu la chance que la balle ne touche pas un organe vital et que les secours le prennent en charge relativement rapidement. Bon, cette munition est une munition qui a un fort pouvoir vulnérant, elle est lourde, elle est de fort diamètre. Elle a pour objectif, dans sa conception, de transmettre une forte dose d'énergie à l'impact à la cible, ce qui augmente son pouvoir vulnérant. Donc oui, on peut considérer qu'il a quand même eu beaucoup de chance.
Il s'en tire très bien. C'est un miraculé. Point très important donné par le procureur aujourd'hui, le tir accidentel, ce qui était la première version donnée par Kenji Girac, ce tir accidentel, c'est tout simplement impossible au vu de la scène. On l'écoute.
Un accident, un tir intempestif qui est... de manière générale, extrêmement peu probable s'agissant d'armes de poing de cette nature, en l'occurrence, est jugé impossible dans le cas d'espèce. Il ne peut pas y avoir de coup de feu sans qu'on ait mis en fonctionnement cette arme et qu'on ait utilisé très clairement les préconisations en la matière.
Voilà, là-dessus, pourquoi un tir accidentel avec ce pistolet, le pistolet automatique 11-43, pourquoi c'est impossible ?
Alors, ce sont les circonstances sur lequel il faut revenir, à savoir que présentement, pour qu'un tir ait lieu, il faut que Kenji Girac a inséré un chargeur avec des munitions, donc un chargeur approvisionné. Il a ensuite actionné la glissière de l'arme pour introduire une munition dans la chambre, ce qui a eu pour effet d'armer le marteau de l'arme. Ensuite, cette arme présente des sûretés et des sécurités qui, selon le procureur, étaient toutes opérationnelles. Donc les experts qui ont analysé l'arme ont conclu à des sûretés opérationnelles. Cette arme a une pédale de sûreté à l'arrière, donc pour que le coup parte, il faut à la fois appuyer fortement sur la pédale de sûreté qui est à l'arrière de la poignée pistolet et presser la queue de détente. Donc, accidentellement...
Donc, il y a deux actions...
Plusieurs actions successives.
Plusieurs actions avant ramener... de vraiment pouvoir tirer.
Voilà, tout à fait.
Donc l'accident est impossible.
Juste une question, parce que là, on a entendu le procureur dire qu'effectivement, il y avait la possibilité... En tout cas, c'est ce que dit Kenji, que ce soit une fausse tentative de suicide et qu'il savait pas que l'arme était armée. Mais ce que vous dites, quand il l'arme le chien, il sait forcément, ça fait un bruit, on sait qu'il y a une balle qui rentre ou...
Alors, oui, alors, j'ai pas tous les éléments en ma possession, hein, j'ai pas accès aux éléments du dossier. Ce qui est possible, c'est que l'arme ait été approvisionnée puis chambrée avec le marteau armé, donc le coup est prêt à partir et que peut-être la pression sur la détente, elle, était accidentelle et involontaire. C'est une arme qui a plutôt habituellement un poids de détente relativement faible par rapport à d'autres armes à profil militaire. Donc, sous l'effet d'un contexte émotionnellement fort, la fatigue, la consommation d'alcool, il n'est pas impossible que, sous l'effet de l'agitation, la détente ait été pressée accidentellement.
Mais il avait l'air de dire qu'en fait, lui, il pensait qu'il n'y avait pas de balles. Ça, est-ce que c'est possible de...
C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure.
Oui, alors, son discernement était peut-être altéré par la situation émotionnellement forte, l'alcool, la fatigue. Il a inséré un chargeur qu'il pensait vide. Les munitions sont relativement importantes. Elles se voient quand on met le chargeur. Alors, il a pu s'en saisir, le mettre machinalement. Il a manipulé l'arme, à savoir que sur le chargeur, s'il est vide, il y a un arrêtoir de chargeur. Ce qui fait que si vous insérez un chargeur vide et que vous armez la glissière, l'arme va rester ouverte. Si elle s'est refermée, c'est déjà un premier indice qu'il y a une munition dans le chargeur et de fait une munition dans la chambre. Et donc que le coup est prêt à partir. Surtout avec le marteau armé. Donc, ce qui fait que l'action de la détente, le marteau actionne le percuteur, le coup part.
Voilà. Vous avez ramené sur le plateau donc des munitions vides, c'est ça ?
Oui, alors juste pour montrer éventuellement aux téléspectateurs qui ne connaissent pas les munitions... Donc là, nous avons à gauche une munition de 9 mm, celle qui est typiquement utilisée par les forces de l'ordre, par exemple. Et à droite, une munition de 7.62-39, donc utilisée par les Kalachnikov, donc qui sont célèbres pour différentes raisons. Mmh. Et au milieu, vous allez retrouver la munition de 11.43 ou 45 ACP, l'appellation Glossaxon, mais c'est exactement la même cartouche. Donc c'est très exactement cette munition. Alors celle-ci, elle est neutralisée, hein, elle est inerte. Qui a été utilisé par Kenji Girac dans le Colt 1911, puisque c'est le calibre du Colt 1911.
Donc c'est costaud.
Alors oui, c'est une munition, la balle pèse 15 grammes, donc c'est une balle de diamètre important. 11.43, c'est son diamètre. Elle pèse 15 grammes, ce qui est relativement lourd pour une balle de pistolet. Et donc c'est ce qui fait qu'elle a ce fort pouvoir vulnérant. Les Américains l'ont construit pour ça à l'époque. Pour
vous avez l'arme vulnérant. Avec vous également ou pas?
Non,
on aurait pu faire une démonstration. Non, c'est là, c'est...
C'est dommage, pas sur ce plateau, Charles Consigny. Il le dit donc, pas d'accident, ça c'est impossible, et pas d'intervention un tiers. Ça c'était l'autre question qu'on se posait, puisqu'on parle d'un huis clos avec la femme de Kenji, leur enfant, se poser la question de est-ce que quelqu'un d'autre que Kenji avait tiré sur lui. Là encore, il referme la porte, on écoute le procureur.
Sur l'examen externe des vêtements, on voit apparaître des traces de fumée au niveau de l'orifice d'entrée du t-shirt, ce qui montre que le canon était particulièrement proche, concrètement à une distance qui peut être estimée entre 5 et 10 cm. Comme j'indiquais tout à l'heure, c'est tout à fait compatible avec les conclusions du médecin légiste qui arrive au même résultat. On n'est pas à bout portant, mais on est à bout touchant très rapproché. Donc concrètement, dans ces conditions, Kenji Girac était tellement près de la paroi externe de la caravane que la présence d'un tiers est matériellement impossible entre lui-même et la paroi de cette caravane, sauf son positionnement tout à fait atypique qu'on aurait du mal à imaginer.
Christian Flesch, donc une intervention d'une autre personne, ça s'est complètement écarté, la piste est totalement refermée.
Alors, je pense que le procureur a longuement parlé pour bien expliquer qu'il y avait d'abord effectivement une impossibilité d'un tir accidentel avec toutes les sécurités qu'il y avait sur l'arme, et ensuite, deuxièmement, que s'il y a eu tir, il ne pouvait être que de la part de Kenji Girac, puisqu'il ne pouvait pas y avoir une autre personne qui intervenait. Reste donc l'interprétation qu'on peut faire de tout ça,
Et clairement, c'est une tentative de suicide ou une simulation de tentative de suicide, avec plutôt une priorité pour une tentative de suicide.
Une priorité pour une tentative
dans,
de suicide.
Dans mon sens, dans la mesure où il a longuement expliqué également que pour des raisons religieuses, tout ça était une question taboue et qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir là-dedans. Le procureur, il a raison. Il doit d'abord voir s'il y a une intervention d'un tiers. Et à partir de ce moment, du moment où c'est un acte personnel, ça ne regarde plus la justice.
Parce que Kenji Girac lui dit « J'ai simulé une tentative de suicide pour faire peur à ma compagne qui menaçait de me quitter. » Mais effectivement, le procureur a quand même glissé que le suicide dans cette communauté gitane, c'est un sujet extrêmement tabou, personne n'en parle, sous-entendant qu'il s'agit peut-être effectivement d'une tentative de suicide.
Oui, même si un de ses oncles, le procureur aussi l'a révélé, hein, un de ses oncles s'était suicidé il y a un mois à peine. Et c'est vrai que le procureur a glissé aussi qu'il avait dit à Kenji Girac que ce qu'il pensait lui-même de cette hypothèse. Sous-entendu, c'eût été plus simple de faire juste le cliquetis de l'arme pour faire peur à sa compagne, sans avoir tout ce geste pour se viser si près. Ça aurait été beaucoup plus simple.
Oui, en fait, c'est vrai que le procureur, il en fait pas, oui. Parce qu'il explique que même au cours des différentes auditions, il a auditionné des gens de cette communauté et de l'entourage de Kenji qui disaient, de toute façon, c'est simple, un gitan ne se suicide pas. Voilà, c'est quand même très, ça veut dire que c'est une règle. Mm-hmm. Et après, on sait évidemment que tout le monde fait ce qu'il peut avec ce type de sentiment. Donc peut-être que, effectivement, c'est finalement un vrai suicide.
Mais c'est un peu la limite de l'enquête, puisque le procureur dit, il a conclu là-dessus. Dans les deux cas, que ce soit une tentative de suicide ou une simulation de suicide, la justice s'arrête, puisque le suicide n'est pas une infraction pénale. Chacun, sa phrase exacte, c'est « La France reconnaît à chacun le droit d'être libre de sa vie », c'est le procureur qui parle, y compris d'y mettre fin.
Oui. Et il ajoute « Ces explications lui appartiennent à lui et à sa compagne de trouver des ressources ».
Exactement.
Voilà ce qu'a dit le procureur. Mais on découvre une autre facette aussi de Kenji Girac. On a parlé tout à l'heure de la possibilité que la consommation d'alcool ait pu jouer aussi dans la manipulation de cette arme. On a retrouvé à 5h du matin son taux d'alcool. Il était estimé à 2,5 grammes par litre de sang.
Oui, c'est considérable. C'est-à-dire que là, on passe d'un alcool qui était peut-être festif et un alcool de fête à vraiment quelque chose qui, là, devient plus problématique. Et oui, bien sûr, c'est à milieu de l'image qu'il a véhiculée jusque-là, c'est à milieu de l'image que c'est son public a de lui. Après, on sait aussi qu'un artiste est là aussi pour donner justement une image, il y a tout un côté peut-être pas marketing, parce que le concernant vraiment, c'est quelqu'un de très authentique. On peut pas lui faire ce procès de se prendre pour un autre ou de jouer un rôle. Mais il a à cœur, en tout cas, il avait tellement à cœur de véhiculer cette image positive de sa communauté et donc de cette musique que oui, il a pu peut-être s'enfermer dans un, finalement, alors pour le coup, hein, ce qui était devenu peut-être un rôle dernièrement, parce que ne pouvant pas faire état de ses états d'âme, justement.
Il a déclaré, c'était les vacances, j'ai tout lâché, je n'aurais pas dû boire autant lors d'un premier repas. Il dit d'avoir consommé également deux petites traces de cocaïne à son retour du casino. Il dit d'avoir été dans un état second, mais conservé des souvenirs de la soirée. Voilà.
Oui, et puis il a dit aussi cette phrase, comme quoi il avait perdu le contrôle à un moment donné.
Et qu'il regrettait, et que tout ça n'était pas lui. La question se pose toujours de savoir pourquoi est-ce que l'arme a été dissimulée, pourquoi est-ce que l'arme a été retrouvée dans un buisson.
Parce que c'est interdit d'avoir une arme, non, tout simplement.
Alors peut-être, je propose qu'on écoute le procureur, et derrière on en parle.
Concrètement, elle était à quelques dizaines de mètres de la caravane. J'ai indiqué que celle-ci était à proximité immédiate de la forêt. Et donc, on est à la sortie, de fait, du camp. Et elle se trouvait donc dans un buisson, dans un roncier, quelques dizaines de mètres du camp en question. L'arme était retrouvée. En revanche, il n'y avait pas de chargeur. Il va falloir attendre 12h40, l'arrivée du père et d'un oncle de Kenji Girac pour expliquer que le chargeur présente également un intérêt et que les enquêteurs souhaiteraient avoir ce chargeur. L'oncle en question est allé le rechercher dans une caravane, remettant donc au directeur d'enquête ce chargeur, mais également un étui percuté. donc qui avait été ramassée dans la caravane.
Pourquoi avoir dissimulé l'arme? Pourquoi est-ce qu'elle a été retrouvée à une dizaine de mètres de la caravane? Parce que vous dites, oui, mais c'est peut-être parce qu'on sait juste que la détention d'armes est prohibée. Mais à partir du moment où vous avez une blessure par balle, on se doute qu'il y en a une quelque part. Là, ça reste aussi quelque chose à élucider.
Non, ce n'est pas à élucider. C'est l'attitude habituelle quand la police ou la gendarmerie intervient dans la communauté des gens du voyage. Il y a une obligation quand il y a des besoins de secours. C'est pour ça que les secours ont été appelés. Et vous avez bien vu ce qu'a dit le procureur. La façon dont les gendarmes ont été accueillis, ça a été extrêmement différent. Donc, il n'y avait pas du tout la volonté de collaborer. Il n'y avait pas du tout l'envie qu'on trouve la vérité. Mmh. Voilà, c'est relativement classique.
Mmh. Oui, un mouvement de panique aussi au moment où ça se passe.
Pas forcément.
Pas forcément. Il y a une balle, la fameuse balle, qui a été retrouvée ce matin. Il y a eu d'autres investigations qui ont été menées sur cette aire d'accueil de Biscarrosse par les enquêteurs à la mi-journée. La balle a donc été retrouvée. Elle va être comparée, j'imagine, avec l'arme qui a été utilisée. Il y a des analyses balistiques qui vont avoir lieu, là, qui sont en train d'avoir lieu.
Très probablement. Alors, la balle retrouvée va permettre d'établir si elle a bien été tirée par l'arme qui a été également retrouvée sur les lieux. Les enquêteurs, les balisticiens vont probablement procéder à un tir de comparaison, extraire les deux balles, celle retrouvée, celle tirée, et comparer les traces pour s'assurer qu'il s'agit bien de la même arme. Donc voilà, on a des traces caractéristiques sur une balle qui sont laissées par une arme, qui permettent de caractériser, en comparant les deux balles, le couple arme-munition. Donc ils vont probablement procéder à ces essais comparatifs pour confirmer qu'il s'agit bien d'une balle tirée par cette arme.
Est-ce qu'on en sait plus sur son rapport aux armes, plus globalement? Est-ce que c'était une fois, ou est-ce qu'il a, comme d'autres dans la communauté gitane ont pu l'expliquer, un amour lui aussi pour les armes?
Il n'en a jamais fait part publiquement, mais le procureur a fait état de cet autre détail, qui est qu'il pratiquait le tir en Suisse, qu'il connaissait, qu'il maîtrisait les armes et la façon de les manipuler. Manifestement, il faisait du tir et il s'exerçait notamment en Suisse, c'est ce qu'il a précisé.
Oui, le procureur a dit ça, pas seulement gratuitement, hein. Le procureur a dit ça pour expliquer qu'il connaissait le fonctionnement d'une arme. C'est vrai que si on vous mettait entre les mains, Julien, un M1911, peut-être que vous n'arriveriez pas à le faire marcher, puisque avec ce jeu de sécurité, cette pression qu'il faut avoir à la fois sur la crosse, sur la détente, la façon de l'armer, c'est un peu compliqué.
Oui, je serais incapable de la faire fonctionner.
Mais c'est vrai qu'on
a un tir accidentel.
Mais vous pourriez causer un tir accidentel si toutefois l'arme était chambrée. Ça veut dire s'il y avait une cartouche dans le tuyau qui fait le canon. Mais s'il fait du tir en Suisse et qu'il a l'habitude de tirer...
Il n'a peut-être pas l'habitude de tirer avec 2,5...
Oui, mais bon, ça veut dire qu'il était parfaitement au clair sur le maniement de cette arme. Donc ça aussi, ça a contribué à exclure sa première version, sur laquelle il est revenu, puisque le procureur a insisté, il ne maintient plus cette première version qui était une version tenue...
Sous l'effet de l'adrénaline,
en 5 minutes devant un gendarme. C'était pas une version élaborée, c'était une version réflexe à chaud à l'hôpital. Donc il reconnaît maintenant qu'il a manipulé cette arme.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on retient deux choses. C'était ni un tir accidentel, ni l'intervention d'un tiers. Kenji Girac a donc expliqué qu'il s'était lui-même tiré dessus volontairement pour faire peur à sa femme qui menaçait de le quitter. On écoute le procureur.
Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a, à son tour, voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur qui était placé plus exactement dans cette arme de poing, comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Voilà donc pour la version qui a été donnée par le procureur. On a donc cette histoire du couple Kenji Girac et Soraya Miranda qui est dévoilée, mise sous les projecteurs. On va faire le point avec Alizé Boissin qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on sait donc de son épouse, de Soraya Miranda, et de ce qu'elle a dit, surtout aux enquêteurs?
Ben déjà, ce que l'on sait, c'est que c'est une femme extrêmement discrète. Preuve en est, il n'y a quasiment aucune photo publique qui circule d'elle. On n'a d'ailleurs pas de photo ce soir à vous montrer de Soraya. Leur histoire, elle commence en 2014. Ils se rencontrent en Suisse. Et à partir de 2014, Soraya déclare aux enquêteurs qu'ils ne se sont plus jamais quittés. Mais ce qu'elle raconte également, eh bien, c'est que cette union, elle n'est pas bien vue de leurs deux familles respectives parce qu'ils n'ont pas le même mode de vie. Kenji Girac, il appartient à la communauté gitane, tandis que Soraya, elle vient de Suisse et donc elle n'appartient pas à cette communauté. La jeune femme, elle aurait même, selon elle, été réticente à intégrer cette communauté en raison, je la cite, de son positionnement féministe et du comportement vis-à-vis des femmes. C'est en tout cas ce qu'elle déclare aux enquêteurs. Ils vivent donc quelques années séparés, Kenji Girac en région parisienne et Soraya en Suisse. Et puis ils décident de s'installer ensemble en 2020. Et puis ils ont une petite fille en 2021, une étape importante pour le couple parce que Soraya dit que c'est à ce moment-là finalement qu'elle a vraiment pu être intégrée dans la communauté gitane. Mais les disputes continuent, notamment au niveau de la scolarisation de la petite fille. La compagne révèle aussi aux enquêteurs que son conjoint prenait de la cocaïne une à deux fois par semaine.
À aucun moment, la responsabilité de Soraya Miranda a été remise en cause.
Oui, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Soraya, donc, elle était dans la caravane hein, quand le tir est parti. Et ce que nous dit le procureur cet après-midi, c'est qu'un tir effectué par un tierce n'est pas compatible avec les constatations. Il dit encore qu'il n'y a pas de traces de dispute physique ni sur Soraya, ni sur Kenji Girac. Donc, ce que l'on comprend, en tout cas, les différentes expertises corroborent dans la version de la compagne, c'est-à-dire que le chanteur a retourné l'arme contre lui alors qu'il était ivre et qu'il avait consommé de la cocaïne.
Merci beaucoup, Alizé Boissin. Ce qui a donc mené à ce communiqué des managers ce soir, qui explique qu'il regrette que le procureur ait cru bon de divulguer l'intimité privée et familiale de Kenji Girac, qui est un homme discret et réservé par nature, et ce, sans nécessité, au regard de l'enquête en cours. Nous a rejoint sur le plateau Maître Mourad Batik. Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Avocat pénaliste. Qu'est-ce que vous pensez-vous de la réaction de ces managers quand ils disent que ce n'était pas nécessaire, en fait, au regard de l'enquête, de dévoiler tous ces détails sur leur vie intime?
Mais ils ont raison. Ils ont raison et je crois que la conférence de presse a duré près d'une heure et demie, ce qui est excessivement rare d'abord qu'un procureur de la République prenne la parole pour un dossier. Il faut vraiment que ce soit un dossier qui a un attrait particulier dans la société. Il n'est pas obligé de le faire, le procureur, donc il fait le choix de prendre la parole. Ensuite, généralement, la pratique et la coutume chez les procureurs de la République, c'est plutôt de prendre la parole avec parcimonie et d'expliquer globalement ce qui s'est passé, de faire taire la rumeur publique et de remettre un peu l'église au milieu du village, de dire voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les médias, on remet un peu les choses à l'endroit et on dit globalement ce qu'il en est, de sorte à éviter des rumeurs infinies. Là, il va beaucoup plus loin. D'abord, c'est pas un dossier qui mérite à mon sens une conférence de presse, c'est un dossier qui mériterait peut-être.
Même quand c'est une personnalité extrêmement populaire.
Bah alors ça peut, mais je pense qu'en l'espèce, un communiqué écrit de quelques lignes aurait amplement suffi. Et puis bon, là, il a décidé de prendre la parole, pourquoi pas, mais une heure et demie sur Kenji Girac, tout Kenji Girac qu'il soit, qu'il puisse être, ça fait un peu beaucoup. Et effectivement, je crois que là, à mon sens, il y a une erreur manifeste de violation de la vie privée, parce que là, on déborde complètement, on est parti trifouiller l'intimité privée. On sait ce qu'il consomme, comment il boit, les relations qu'il a avec sa femme, avec sa fille. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Il reste, c'est une personnalité publique, vous l'avez dit, mais ça reste aussi un citoyen qui a une vie de famille, qui a une vie de couple qui peut être compliquée comme celle de millions de Français avec des hauts, des bas. Et je crois qu'on n'avait pas besoin de rentrer dans ce genre de détails.
Vous aviez une question, Olivier Vial?
Non, c'est pas une question, mais je suis assez d'accord, en fait. Autant pour éteindre la rumeur, il était légitime que le procureur ferme les portes et disent clairement, oui, il n'y a pas de tiers à impliquer, il n'y a pas de... Mais après, rentrer dans toute l'intimité de façon aussi importante, au moment où il sait déjà qu'en réalité, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de poursuite, je pense que oui, là, on a été beaucoup trop loin dans la politique spectacle, donc quoi, dans la justice spectacle, et que c'était pas nécessaire, et que ça va nourrir encore une sorte de tribunal médiatique derrière qui sera sans doute plus difficile encore que ce qu'il a vécu ces derniers temps.
Vous partagez cet avis, Christian Fleisch ?
Non, pas du tout. Non, je pense qu'au contraire, je pense que c'était bien que le procureur s'exprime. Il s'est exprimé longuement, c'est vrai, mais il a fait ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il a remis l'église au milieu du village et il a fait taire un certain nombre de rumeurs en donnant les éléments du dossier. Les éléments du dossier pour exclure l'accident et pour en arriver à la conclusion et au fait qu'il allait clôturer l'enquête, il avait besoin de rentrer dans un certain nombre de détails. Je trouve aussi que pour des raisons d'ordre public, ça évite que tout le monde aille fureter dans les environs du camp et dans les environs de tous les endroits où Kenji Girac s'est baladé dans la journée du 21. Là, tout est écrit, tout est dit. Et maintenant,
tout est clair et ça clôt l'histoire.
Pour moi, oui.
Mmh. Surtout si les gendarmes avaient été appelés, si l'arme avait été retrouvée, si des constatations normales avaient pu être faites à chaud, toute cette affaire n'aurait pas eu toute cette ampleur. Le procureur a quand même dû ouvrir, à cause de la confusion de la scène, il a dû ouvrir une information judiciaire lundi pour tentative d'homicide volontaire. C'est-à-dire, c'était une enquête sur une tentative d'assassinat, en réalité. Avec toutes les hypothèses sur la table, y compris celle d'un règlement de compte, d'un crime familial, il avait envisagé qu'un tiers soit venu attenter à la vie de Kenji Girac.
Donc il était obligé.
Au fond, il faut clôturer cette séquence. Oui. Et les investigations extrêmement rapides, elles permettent de clôturer cette séquence. Au contraire, à l'arrivée, par le scénario absolument opposé au scénario du pire en termes judiciaires, par une tentative de suicide. Donc le procureur s'explique.
Convenez avec moi, cher maître, qu'à partir du moment où on trouve une personne blessée et qu'on n'ait aucun autre élément, pas d'armes, pas de projectiles, pas de munitions, etc., on peut même s'imaginer que ça ne s'est pas passé dans le camp.
Ah oui, non mais tout à fait. Non mais de toute façon, sur les hypothèses, il a évidemment bien mené son enquête. Le procureur de la République, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il ouvre très large et puis avec la méthode de l'entonnoir, on arrive finalement à une vérité qui s'est affinée au fur et à mesure des investigations. Maintenant, simplement, voilà, sur l'intimité d'un homme, moi je suis toujours très sceptique à l'idée d'exposer l'intimité d'un homme, à l'idée d'exposer ce qui se passe dans son foyer, avec sa femme, avec ses parents, avec son père, avec sa fille. Moi je pense que on est quand même sur un cas qui arrive, nous on le voit au quotidien avec mon confrère Charles Consigny, on le voit au quotidien, ce sont des dossiers qui sont multiples, qui se déroulent, il y en a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers par jour. On n'est pas sur un dossier de terrorisme, on n'est pas sur un dossier qui implique d'autres individus. Je pense que la communication, à mon sens, elle est excessive concernant ce dossier.
Non, mais vous avez dit vous-même, c'est un personnage qui est public, c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée, et il y avait besoin que les choses soient clairement mises.
Oui, bien sûr.
Dans la mesure où sinon, dans les semaines...
Dans les
semaines qui auraient suivi, il y aurait eu tout un tas d'enquêtes parallèles de différents organes de presse qui auraient mis à jour un certain nombre d'éléments et la polémique aurait
continué. Oui, c'est ça. C'est presque, on a l'impression que c'est pour couper l'herbe sous le pied, justement, de la presse people, etc. Et c'est presque plus pour son public, on prend un peu de hauteur, presque plus pour son public qu'il a tout détaillé. C'est-à-dire que, ok, c'est pas un accident, si on met ça en deux lignes, mais alors si c'est pas un accident, c'est sa femme qui a tiré. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, il a été tout doucement vers dédouaner sa femme, qui avait été victime d'énormément de rumeurs les dernières heures, les derniers jours, et c'est pas ce qu'il voulait, et c'est peut-être aussi pour, donner vraiment le contexte qui s'adresse aussi à son public.
Oui, mais selon, si on s'en tient à la version de Kenji Girac, c'est un accident, puisque lui, il dit qu'il a tiré par mégarde avec son arme.
Il voulait simuler ensuite.
Donc, je suis désolé, la communication n'est pas très claire. Selon Kenji Girac, c'est un accident. Il n'a pas fait exprès.
Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à tirer dessus.
Donc, on dit qu'on exclut l'accident. On exclut le flingue qui serait tombé par terre et qui, en chutant, aurait tiré, etc. Ça, d'accord. Mais donc, c'est quand même un accident. Moi, je trouve que globalement, la justice ne sait pas faire en termes de communication ni en termes de célébrité. Dès qu'il y a quelqu'un de connu dans l'histoire, la justice s'emballe, se consacre des moyens complètement délirants.
Vous avez quels autres exemples?
Palmade, par exemple. Il y en a plein d'exemples. Nicolas Sarkozy, par exemple. Tous les politiques. Sibeth Ndiaye.
Et dans ces cas-là, la justice, vous dites, COVID, ne sait pas faire.
Je constate que la justice, elle surréagit quand la personne est célèbre. Et très souvent, elle sous-réagit quand la personne ne l'est pas. Elle a quand même un côté starfucker, si vous me passez l'expression, la justice. Mais c'est une réalité. Et là, je suis désolé, c'est à mon sens un peu l'exemple typique. C'est-à-dire que le procureur, il a l'air de sortir de la série Engrenage. Il est là, il fait sa conférence de presse pendant une heure et demie. Ça aurait été n'importe qui d'autre, évidemment, qui faisait pas ça. Et je suis d'accord, pour le coup, là aussi, avec mon confrère Batik, je pense que un communiqué disant Kenji Girac, selon toute vraisemblance, s'est tiré dessus sans faire exprès, merci, bonsoir, suffisait, on n'avait pas besoin de donner ni son taux d'alcoolémie, ni qu'il avait consommé de la cocaïne, ni qu'il s'entendait pas avec sa femme, ni qu'il avait déjà évoqué l'idée qu'il allait se suicider s'il continuait de pas s'entendre, ni que dans la communauté gitane.
Sauf que c'est pas forcément sans faire exprès.
Et alors en plus, c'est pire, parce que du coup, il y a même le soupçon que Kenji Girac a tenté de se suicider. Donc franchement, je trouve que c'est une opération un peu bizarre.
Après, et en même temps, c'est les conclusions de l'enquête, Charles.
C'est bon pour ça.
Lorsqu'il dit, voilà, Kenji Girac dit avoir simulé une tentative de suicide.
Ouais. Mais je pense qu'il faut
C'est bon pour sa légende à lui. Je serais ses managers, je me réjouirais de cet incident.
Ils le font pas.
Qui alimente sa staritude, si vous voulez. Il était en baisse de croisière, en baisse de régime, et là, tout à coup... Je pense qu'une star de la musique digne de ce nom, elle a des démons.
Ça a des conséquences qui peuvent être irrémédiables, surtout à l'heure où on cherche une image parfaite de chaque individu, des stars qui doivent être absolument exemplaires, à l'heure presque d'un nouveau robespierrisme où on coupe des têtes dès que quelqu'un a un soupçon de quelque chose au-dessus de lui. Et moi, je crois que c'est très dommageable et que le rôle du procureur, c'était de s'en tenir à l'enquête, rien qu'à l'enquête. Moi, j'ai pas entendu l'heure et demie de communication. Néanmoins, j'ai entendu que parfois, il lui arrivait, quand il était un peu ivre, de pouvoir jeter des choses dans la caravane. On est complètement hors enquête, on est complètement hors contexte.
On a d'ailleurs
besoin de savoir ça. C'est extrêmement dommageable pour sa carrière. C'est un artiste qui aussi génère de l'emploi. Derrière, il y a des tournées, il y a des voilà. Et donc, c'est tout un écosystème qui peut être mis à mal pour des choses qu'on n'a pas besoin de savoir.
Est-ce que vous pensez que la presse people se serait contentée d'un communiqué écrit? Est-ce qu'elle n'aurait pas cherché derrière?
Que la presse people déborde et franchisse la ligne jaune ou la ligne rouge, à la limite, c'est de bonne guerre. C'est un peu leur colonne vertébrale. Que le procureur aille nous expliquer que parfois, quand il est ivre, effectivement, il lui arrive de jeter des choses dans la caravane. On n'est pas du tout dans le temps du contexte.
Mais il répondait aussi à plein d'éléments qui étaient sortis dans les médias et il les a adressés un par un.
Ouais. Effectivement, ce qu'il dit, c'est qu'il ne frappe pas sa compagne.
Bon, alors peut-être qu'on peut l'écouter là-dessus. Ouais, le procureur, donc, il raconte ce que Soraya, la femme de Kenji, a raconté aux enquêteurs.
Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Voilà, ça pour vous, c'est trop.
Ouais, c'est trop, on n'a pas besoin de savoir ça. Il y a eu ce qui s'est passé avec l'arme, on avait besoin de savoir le contexte, qui, quoi, où, comment, pourquoi. On a eu les réponses. Il reste des infractions que le procureur de la République peut poursuivre. Il a l'opportunité des poursuites. Donc, sur la consommation de cocaïne, il y a des éléments pour poursuivre Kenji Girac sur sa consommation et peut-être trouver des méthodologies de soins pour l'aider à sortir de ça. On a la détention d'armes. Il peut très bien dire, bon, voilà, l'affaire du tir, c'est un tir accidentel, je ne poursuis pas, c'est classé sans suite. Reste que je poursuis, moi, procureur de la République, pour l'usage et la détention de produits stupéfiants, pour la détention d'une arme, point à la ligne, et on avance. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Et encore une fois, moi, je crois qu'on met à mal tout un écosystème, surtout pour les stars qui doivent faire des placements produits, qui sont amenés à faire des publicités. C'est une espèce de mise à mort à laquelle la presse people peut participer et à laquelle, à mon sens, la justice, dont on doit avoir une très grande idée, une très haute idée, eh bien, ne doit pas participer, doit être très précautionneuse. Et je pense, à mon sens, et je le dis très humblement, que peut-être le procureur a manqué un peu de précaution là-dessus et sur les conséquences de ce qui pouvait être dit dans le métier, dans le quotidien, dans l'art dans lequel opère cet artiste, mais c'est valable pour d'autres.
Et dans l'enquête, effectivement, ouverte pour tentative d'homicide, il a dit que ça devrait se terminer par un classement sauf élément nouveau. Est-ce qu'il y aura d'autres poursuites, en revanche, sur d'autres volets? Vous parliez de la détention de cocaïne, par exemple.
A priori, non. Hein, il s'est expliqué. Il a eu une phrase pour dire que c'était peut-être pas opportun. C'est vrai qu'on a assisté à quelque chose d'inédit aujourd'hui. Parce que c'est vrai que sur, à part les attentats terroristes et les conférences de presse de François Molins, qui détaillaient déjà beaucoup de choses sur des attentats terroristes, c'est quand même une tendance que les procureurs parlent. Et c'est quand même une tendance heureuse. Puisque jusqu'à présent, les procureurs se contentaient, dans le meilleur des cas, d'un tout petit communiqué auquel on comprenait généralement rien. Et le monopole des fuites était réservé aux avocats. Et le monopole des fuites réservé aux avocats était utilisé par eux dans l'intérêt de leurs clients, évidemment. Donc là, on a assisté à tout l'inverse. On a assisté à tout l'inverse d'un procureur qui a donné la plupart des détails, pas tous. Parce qu'au fond, dans les trois heures de dispute dans la caravane, il a donné quelques éléments seulement. Il ne s'est pas étendu. Mais c'est vrai qu'on a assisté à un procureur qui a, au fond, déminé tout un dossier. Et qui a déminé tous les soupçons possibles sur cette enquête qui n'a que trois jours. Donc au fond, c'est aussi une forme de pédagogie judiciaire d'expliquer ce qu'est une enquête, ce que sont ses résultats. C'est d'habitude, on assiste d'habitude à ce genre de détails dans une enceinte judiciaire et dans un procès. Hein, c'est très fréquent dans un procès, maître, qu'il y ait des détails qui soient extrêmement désobligeants dans la vie des gens. C'est même l'objet d'un procès, c'est même l'objet d'une enquête judiciaire, d'être parfois extrêmement désagréable sur la vie des gens.
Mais parce
alors
que
là, il n'y a pas de procès.
On rend compte devant des juges, devant des magistrats.
Là, il n'y a pas de procès, bien entendu, mais il y a un magistrat qui, au fond, a mis en branle l'action publique très haut, puisqu'il a mis en branle l'action publique dans l'éventualité d'un homicide volontaire, d'une tentative d'homicide volontaire, et qui, au bout de trois jours, rend compte aux Français, au nom duquel il requiert, puisqu'il requiert au nom du peuple français, il requiert de la fin de poursuite, en disant la justice, elle s'arrête parce qu'elle n'a pas enquêté sur les suicides, puisque la justice, en France, les suicides sont permis. C'est pas permis en Corée du Nord. Mais en France, c'est permis.
C'est permis, et donc
au fond, le procureur, finalement, il nous rend compte d'un travail d'intérêt public.
Mais ça, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut tout simplement trouver l'équilibre entre cette pédagogie qui est nécessaire. Et moi, je trouve que ça assez heureux qu'un procureur puisse prendre la parole, puisse s'exprimer et puisse démocratiser et amener chacun à comprendre les mécanismes judiciaires dans lesquels on vit et dans lesquels on évolue. Néanmoins, je pense qu'il faut jamais oublier cette recherche d'équilibre entre le besoin qu'ont les citoyens de comprendre un dossier et le respect de la vie privée.
Sur l'état de santé, Candice, de Kenji Girac, il a donné quelques indications. Un poumon a été éteint, il est fatigué, il a du mal à respirer. Est-ce qu'on sait s'il va pouvoir rechanter
Là, en l'état actuel, on ne peut pas l'affirmer absolument, mais quand même, on l'a dit, c'est quand même un miraculé. Il a un poumon atteint, mais je veux dire, rien n'est absolument irrémédiable, pas d'os touché, enfin voilà, ça reste un miraculé avec 30 jours, je crois, d'ITT, ce qui est beaucoup et à la fois rien quand on a frôlé la mort. Et après, il lui faudra sans doute plus de temps que ça pour se remettre vraiment, mais voilà, un peu de mal à respirer, mais avec sans doute le temps, on lui souhaite de retrouver toutes les capacités.
Il a dit, a priori, le procureur, que la question, quand on lui a posé la question, que Kenji gardait une bonne voix.
Voilà. Oui, voilà, déjà, il m'a semblé avoir une bonne voix, qu'il a vraiment joué le rôle de tous les rôles, hein, ce procureur. En effet, il a aussi joué le rôle d'expert artistique et vocal. Mais oui, apparemment, il a quand même une bonne voix Et puis il est jeune et on ne doute pas qu'il se remette.
Et on lui souhaite évidemment de se rétablir. Merci beaucoup à tous. Oui.